C'est bon. Ok. Vous avez cours à quelle heure derrière? On va finir vers entre moins 10 et pile. Ok, donc, maintenant qu'on a expliqué ça et le vocabulaire, au-delà de proposition projet de loi, le processus d'adoption de la loi derrière, lui, il ne change pas. La loi, elle est discutée par le Parlement. C'est imposé par la Constitution. Ne notez pas l'article, notez juste le numéro, vous irez le consulter. L'article 45 de la Constitution vous dit « Tout projet ou proposition de loi est examiné successivement dans les deux assemblées du Parlement en vue de l'adoption d'un texte identique. » Voilà. Il y a une discussion qui est menée entre l'Assemblée nationale et le Sénat, et c'est au terme de ce dialogue que la loi apparaît, que la loi naît et qu'après la loi est adoptée. S'il y a un désaccord entre les deux assemblées, ça peut arriver et ça arrive. En cas de désaccord, il y a une procédure spécifique qui est prévue par la Constitution, procédure spécifique au terme de laquelle c'est l'Assemblée nationale qui peut avoir le dernier mot si elle y est autorisée par le gouvernement. Voilà. Pour sortir d'une incompréhension, d'un conflit, d'une différence de vision entre l'Assemblée nationale et le Sénat, le gouvernement peut autoriser l'Assemblée nationale à avoir le dernier mot. Voilà. Si on dit les choses clairement entre nous, c'est un peu l'idée. Ça ne marche pas systématiquement, ça. Pour certains types de lois qu'on verra tout à l'heure, cette primauté de l'Assemblée nationale, elle disparaît. Mais en principe, il y a donc un dialogue. Et en cas de dissension dans le dialogue, c'est l'Assemblée nationale qui l'emporte. C'est une distinction importante, tout ça, à faire avec le règlement. Le règlement, je vous l'ai dit, donc le règlement au sens des actes qui sont dans le bloc réglementaire qu'on va expliquer un peu maintenant. Le règlement, lui, il relève de la compétence au premier titre du pouvoir exécutif, éventuellement des autorités administratives. Par principe, c'est le premier ministre qui a le pouvoir de création du décret. Il faut noter quand même que le président de la République peut avoir une compétence exceptionnelle dans certains cas. Mais le principe, c'est le Premier ministre. Il y a trois formes de décrets en contemplation de la façon dont ils sont adoptés que je vous ai mis sur les slides. Soit c'est un décret qu'on appelle un décret simple. Dans ce cas-là, il est signé par le Premier ministre et il est contresigné, par le ou les ministres qui sont concernés aussi. Si c'est un décret qui est pris sur un truc de l'éducation des enfants à l'école, il sera contresigné par le ministre de l'Éducation nationale, etc. Si c'est sur l'agriculture, c'est le ministre de l'Agriculture, vous avez compris le fonctionnement. Ça, c'est pour les décrets simples. Ça peut être aussi ce qu'on appelle un décret en Conseil des ministres. Dans ce cas-là, le décret est signé par le président de la République et il est contresigné par l'ensemble des ministres, peu importe ce sur quoi il porte. Donc si on reprend notre exemple, si c'est un décret en Conseil des ministres qui concerne l'éducation des enfants, même si ça ne concerne en soi que le ministère de l'Éducation nationale, dès lors que c'est un décret en Conseil des ministres, il est signé par le président, contresigné par tous les autres. Et enfin, ça peut être un décret en Conseil d'État. Dans ce cas, il est pris par l'exécutif, toujours pareil. Et il est spontanément ou après sollicitation du Parlement, on a sollicité l'avis du Conseil d'État. Le Conseil d'État va donner un avis sur le décret et après cet avis, le décret sera adopté. Ça, c'est si on distingue les décrets. Donc, encore une fois, les décrets, ils relèvent du bloc réglementaire, des règlements, puisqu'ils sont adoptés non pas par le Parlement, mais par le pouvoir exécutif. Si vous distinguez cette fois-ci au regard du contenu du décret, là, vous voyez que décret simple, décret en Conseil des ministres, décret en Conseil d'État, on a distingué selon ceux qui contresignaient, en fait. Si cette fois-ci, on s'intéresse au contenu du décret, il y a deux possibilités. Soit c'est ce qu'on appelle un décret autonome, soit c'est ce qu'on appelle un décret d'application. Les décrets autonomes, ils sont pris à l'initiative du pouvoir exécutif, alors que les décrets d'application, ils sont pris à la suite d'une loi. La loi va vous dire, cet élément sera précisé par décret. Voilà. Donc il y a un passage de relais, le législateur demande au pouvoir réglementaire de venir préciser un point. Un exemple qu'on va rencontrer par la suite, donc vous vous faites une note pour renvoyer à la fin du cours parce qu'on le verra à la fin. Vous verrez qu'on exige, pour prouver les actes qui ont une valeur supérieure à 1 500 €, on exige un écrit. Quand ça vaut plus de 1 500 €, il faut un écrit. Je vous expliquerai ça dans le détail par la suite, c'est pas pour ça que je vous en parle ici. Le texte original de la loi qui a décidé ça vous dit, au-dessus d'une somme fixée par décret, il faut un écrit. Et c'est le décret d'application qui a dit la somme c'est 1 500. Voilà. C'est ça le passage de relais. Donc retenez qu'au regard du contenu, il y a deux types de décrets. Des décrets autonomes qui interviennent sans avoir été sollicités par le législateur et des décrets d'application qui sont là pour appliquer une loi, donc pour en préciser le contenu. En dehors de ça, au-delà des décrets, dans le pouvoir réglementaire, dans le bloc réglementaire, vous avez aussi ce qu'on appelle, on en entend beaucoup parler ces derniers temps, ce qu'on appelle les ordonnances. Attention, l'ordonnance, elle est faite par le pouvoir réglementaire, par le pouvoir exécutif. Elle est prise par le gouvernement. C'est pour ça que parfois ça râle, alors sans très bien connaître le fonctionnement de la Constitution, parce que, comme souvent, les critiques sont souvent très excessives, mais parfois vous entendez, oui, on est en dictature, c'est pas le Parlement qui s'est prononcé, c'est le gouvernement, on est passé par ordonnance. L'expression « on est passé par ordonnance », c'est devenu une espèce de truc de... Voilà, d'absolu... Bon, en fait, on est passé par ordonnance parce que la Constitution autorise le gouvernement à passer par ordonnance sur certains sujets. Voilà. Globalement, ça se résume à ça. Mais... l'espèce de légende urbaine autour a pris de l'ampleur. En fait, la Constitution autorise le gouvernement à passer sur un certain nombre de points par ordonnance. Je précise quelque chose, si jamais l'ordonnance est ratifiée par le Parlement, ça arrive. C'est-à-dire qu'en gros, le gouvernement fait le texte d'une ordonnance et il le soumet au Parlement. Si le Parlement vote l'ordonnance, alors l'ordonnance n'est plus dans le bloc réglementaire, mais elle remonte dans le bloc législatif. Si je reprends mon spoil de la hiérarchie avec la pyramide, parce que le pouvoir législatif, parce que le Parlement aura ratifié l'ordonnance, alors elle, c'est l'expression technique employée, elle acquiert force de loi, c'est-à-dire que en gros, vous avez le sceau du Parlement avec le vote, et donc c'est plus simplement une ordonnance ratifiée, elle n'est plus dans le bloc réglementaire, elle remonte du fait de la ratification dans le bloc de l'égalité, donc dans le bloc avec la loi. Attendez, je suis paumée, hop. Donc, vous avez les décrets et les ordonnances. En dessous, vous allez trouver ce qu'on appelle les arrêtés. Donc, vous avez des arrêtés ministériels, des arrêtés interministériels, des arrêtés préfectoraux, des arrêtés municipaux. Donc, arrêtés ministériels, interministériels, préfectoraux, municipaux. Et puis, enfin, vous avez les circulaires. Bon, les circulaires, c'est des instructions qui sont adressées aux fonctionnaires, hein, donc relatif. Donc, ça veut dire que dans le bloc réglementaire, on a les décrets, les ordonnances, sauf si elles sont ratifiées par le Parlement, parce que dans ce cas-là, elles sont remontées d'un étage. Mais donc, les décrets, les ordonnances non ratifiées, les arrêtés, les circulaires. Ça, c'est le bloc réglementaire. Et donc, le bloc réglementaire, il se situe en dessous du bloc de l'égalité, du bloc de la loi. Donc on voit bien que d'un point de vue formel, au regard du processus d'élaboration, de création de la règle, la loi n'est pas pareille que le règlement. La loi, elle relève du pouvoir législatif, le règlement, il relève du pouvoir exécutif. Mais désormais, c'est ce que je vous disais en introduction, avec la Constitution de 58, il y a un autre critère qui permet d'affirmer la distinction. La loi et le règlement, elles se distinguent pas seulement au sens formel, au regard de leur émetteur. Est-ce que c'est le pouvoir législatif? Est-ce que c'est le pouvoir exécutif? Elles se distinguent aussi au regard de leur contenu et ça fait l'objet d'un petit B, sens matériel. Petit B, sens matériel. Ce sont les articles 34 et 37 de la Constitution qui définissent les sphères de compétences respectives. L'article 34 définit la compétence du législateur, la compétence du pouvoir législatif. L'article 37 définit la compétence du pouvoir réglementaire. L'article 34 est très dense, pas l'article 37. Voilà. Donc quand je vous dis, avant la Constitution de 58, la loi régnait en maître, mais avec la Constitution de 58, on a réparti les compétences, ouais, on a certes réparti les compétences, mais enfin, sur la proportion, la compétence du pouvoir législatif est très large, la compétence du pouvoir exécutif est beaucoup plus limitée. Sur la compétence législative, vous allez avoir plein de termes, de thèmes. Le législateur, il est compétent pour déterminer les libertés publiques. Je donne quelques exemples, hein, pas tous les thèmes. Pour le pluralisme et l'indépendance des médias, la nationalité, les questions de nationalité, les questions de capacité et d'état des personnes, tout ce qui est régime matrimonial, succession, libéralité, la procédure pénale aussi, piochez-en quelques-uns, les notez pas tous. Hein. Détermination des crimes et délits, la question des impôts, les régimes électoraux, les nationalisations aussi. Dans toutes ces matières, il y a, et c'est ça qui m'intéresse, ce qu'on appelle une compétence exclusive de la loi. C'est-à-dire, dans ces cas-là, le législateur est le seul compétent pour intervenir. Personne d'autre. C'est pour ça qu'on parle de compétence exclusive. Mais ce législateur, il a aussi un autre champ de compétences qui est un peu différent parce que dans ce cas-là, c'est un champ qu'on peut appeler un champ de compétences partagé. La loi, dans ce cas-là, a un pouvoir plus limité, c'est toujours l'article 34 de la Constitution. Un pouvoir plus limité parce que dans ce cas-là, quand on est dans ces hypothèses-là, le législateur va se contenter de fixer les principes fondamentaux. Et donc, pour fixer les détails d'application de ces principes fondamentaux, c'est le pouvoir réglementaire qui prendra le relais. Alors, sont notamment concernés, je vous en ai mis quelques-uns aussi, les questions de défense nationale, les questions d'enseignement, les questions de préservation de l'environnement, de propriété, d'obligations civiles et commerciales, de droit social, etc. Je l'ai redit une fois, ne les notez pas toutes, ne les apprenez encore moins par cœur. Donc la défense nationale, l'enseignement, la préservation de l'environnement, la propriété, les obligations civiles et commerciales, le droit social, etc. Dans ce cas-là, on n'a donc plus une compétence exclusive, mais une compétence partagée. C'est le législateur qui fixe les grands principes et après, il passe le relais au pouvoir réglementaire qui fixera les détails d'application. Et enfin, donc on a un troisième bloc qui est la compétence exclusive du pouvoir réglementaire, qui est extrêmement résiduelle parce qu'elle est définie par la négative. Si vous allez lire l'article 37, l'article 37 de la Constitution vous dit « Les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ». Donc en fait, il faut regarder l'article 34 qui vise énormément de domaines. Bah, les domaines qui ne sont pas visés dans l'article 34, c'est de l'article 37. Voilà. Donc toujours, hein, quand on définit par la négative, le champ est beaucoup plus petit. Mais vous voyez que du coup, on a une répartition des compétences matérielles entre la loi et le règlement qui peut se faire sur trois blocs. Une compétence exclusive de la loi, très majoritaire. Une compétence exclusive du règlement, article 37, qui elle est très minoritaire. Et puis, une compétence partagée, avec un passage de relais. La loi fixe les grands principes et il appartient au règlement derrière de préciser les conditions d'application technique de ces grands principes. C'est relativement clair, comme ça, la répartition des compétences, elle s'opère assez harmonieusement. On a effectivement ces trois blocs qu'il faut bien identifier, deux blocs de compétences exclusives de taille incomparable. Hein. Mon schéma est très mal fichu là-dessus. Ils ont la même taille, en réalité, il faut faire... prendre les trois quarts du cercle par la compétence exclusive du législateur, de la loi, et le petit bout de la compétence exclusive du règlement, il est rikiki. Juste, vous excusez l'absence de précision du schéma là-dessus, mais c'est l'idée qu'il faut retenir. Je vous laisse le soin de corriger vous-même là-dessus, c'est pas problématique. Oui, je l'ai pas dit, j'ai oublié, j'y pense à cause de... Vous pouvez corriger vous-même le schéma. Je l'ai précisé sur la slide d'entrée, je le préciserai à chaque fois... Même si j'oublie, les slides, elles sont pour votre utilisation personnelle. Les fichiers audio, ils sont pour votre utilisation personnelle. Je m'explique. Vous avez peut-être vu passer ce truc-là, mais on va sûrement vous en reparler parce que c'est arrivé et c'est arrivé à certains collègues d'ici notamment. Il y a maintenant des velléités de mettre ces contenus-là en ligne. Parfois pour les vendre. Alors vous avez des sites particuliers qui vous proposent, c'est pas vraiment de la vente, mais vous avez des avantages et vous avez des bons cadeaux sur certains trucs, etc. quand vous mettez vos fiches et donc on se retrouve avec nos cours en ligne. Moi, je suis très sympa, j'ai aucun problème à enregistrer mon cours, je pense que c'est utile pour vous. J'ai aucun problème à faire des slides, je pense que ça aussi, pour commencer le droit, c'est pas inutile. Je vous déconseille de me coller ça en ligne. Je le déconseille vraiment très fort. Parce que alors moi, j'aurais aucun problème à agir sur le terrain de la contrefaçon. Je me prends la tête à faire ça pour vous. Je continue si vous jouez le jeu. Le jour où je retrouve ça en ligne, j'attaque direct. Donc, je préfère que ce soit clair, limpide. Je le dis parce que parfois, vous êtes surpris par la suite. En fait, un cours magistral, a fortiori les éléments qu'on fait par ailleurs comme ça, c'est protégé par le droit d'auteur et donc vous n'avez pas le droit de faire ce que vous voulez de tout ça. Donc, dans mon cours, et là c'est très clair, je vous donne ma position, dans le cours des collègues, je leur laisserai vous dire, mais enfin, généralement, personne n'est très très chaud, hein. Vous n'êtes pas propriétaire de tous ces éléments-là, y compris de vos prises de notes qui en fait ne sont qu'une synthèse de ce qu'on vous a dit nous, ça ne vous appartient pas, ça ne se retrouve pas en ligne. Moi, je vous ai dit, si vous avez un groupe WhatsApp ou autre, j'ai aucun problème à vous envoyer les slides dessus pour que vous les ayez. Ça ne me dérange pas. Si je les retrouve à l'extérieur des amphis et des étudiants qui composent mon amphi, je vais me fâcher vraiment très fort. Voilà. Je préfère le poser comme ça, au moins on est clair, mais j'ai oublié de le dire en introduction et étant spécialiste de droit d'auteur, ça m'aurait fait un peu mal d'oublier. Donc, voilà pour la définition de la loi et la distinction à opérer avec le règlement. On n'en a pas terminé avec la loi parce qu'il faut maintenant définir la forme des lois, la typologie des lois. Voilà, c'est le terme que je cherchais, excusez-moi. Les différentes formes de loi, c'est-à-dire la typologie, comment se présentent les différentes formes de loi. Et là, on a plusieurs hypothèses. Alors, toutes les lois ont leur spécificité, clairement. Vous avez plusieurs catégories de lois qui ont d'ailleurs des valeurs relativement différentes entre elles. La première grande catégorie en haut, sans grande surprise, c'est la loi constitutionnelle. Donc ça fait l'objet d'un petit 1. On est dans le 2 formes des lois. Oui, excusez-moi, comme j'ai les slides, c'est vrai que j'oublie de donner le niveau parfois. On est dans le 2 formes des lois et le petit 1, loi constitutionnelle. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, la Constitution, c'est l'ensemble des règles fondatrices, fondamentales, qui, dans le cadre de l'État, portent sur l'organisation, l'encadrement des institutions politiques, publiques, et qui organise les rapports entre les gouvernants et les gouvernés, en gros, si je schématise. Donc, cette constitution, elle émane d'un ce qu'on appelle un pouvoir constituant qui, évidemment, doit être légitime. Le concept de loi constitutionnelle, vous ne le retrouvez pas tel quel dans la Constitution. La Constitution, elle parle de projet de révision ou de révision de la Constitution. Mais en gros, les lois constitutionnelles, c'est les lois dont l'objet, dont la finalité est d'établir une nouvelle constitution ou de modifier une constitution existante. On vous parle parfois, certains partis politiques vous parlent parfois de la volonté de passer à une 6e République. Si c'était le cas, il faudrait adopter une loi constitutionnelle pour changer la constitution et basculer dans une 6e République. Sans aller jusque-là et jusqu'à un changement de constitution, on peut envisager une modification de la constitution existante. Et encore une fois, c'est arrivé il y a encore quelques mois seulement. Il y a eu une petite trentaine, je crois, de révisions constitutionnelles depuis 56. Il me semble 25 ou 26, mais j'ai un doute. On se fiche un peu du chiffre exact, mais c'est pour vous dire que depuis 58, ça s'est quand même produit plusieurs fois. C'est pas un texte absolument immuable. Des lois constitutionnelles, il y en a. Évidemment, et c'est pour ça que je vous en parle, la procédure d'élaboration et d'adoption de la loi constitutionnelle, elle est différente de ce que je vous ai dit jusque-là. Dans cette hypothèse, d'abord, il y a une parfaite égalité entre l'Assemblée et le Sénat. L'Assemblée nationale ne peut plus primer en cas de désaccord. Donc vous vous souvenez, j'avais expliqué ce principe de primauté si les deux assemblées n'étaient pas d'accord. Ce principe-là, il disparaît sur les lois constitutionnelles. En quelque sorte, on considère que c'est trop important et que la loi peut être adoptée que si les deux sont d'accord. Que si ce n'est pas le cas, bah en fait, il ne faut pas aller au bout de la loi constitutionnelle. Par ailleurs, cette loi constitutionnelle, elle peut être ratifiée par la voie référendaire. C'est obligatoire quand il s'agit d'une proposition de loi. Désormais, vous savez que proposition de loi, c'est un texte qui émane d'un parlementaire. Si la proposition de loi constitutionnelle émane d'un parlementaire, alors il est obligatoire de valider la loi par un référendum. Pourquoi ? C'est un peu l'idée que, ne l'écrivez pas comme ça, c'est pour vous expliquer là encore, mais c'est un peu l'idée que le Parlement ne peut pas être juge et partie. C'est lui qui propose par l'intermédiaire d'un de ses députés, d'un de ses sénateurs. Donc il faut une autre voie que celle du Parlement pour valider le texte. Donc, quand c'est une proposition de loi, c'est-à-dire, encore une fois, quand le texte émane d'un parlementaire, alors il faut que la loi soit approuvée par voie de référendum. Donc, on sera sollicité en tant que citoyen pour donner notre avis et la majorité décidera ou non de ratifier, de valider la loi constitutionnelle. Ce n'est pas une obligation quand c'est un projet de loi. Quand c'est un projet de loi, donc encore une fois, quand ça émane non pas d'un parlementaire mais du gouvernement, du pouvoir exécutif, le président peut décider. Il peut décider de ne pas avoir recours au référendum et de préférer solliciter le Parlement en congrès, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire vous réunissez les deux assemblées, l'ensemble des députés et des sénateurs, et il faut la majorité des 3/5 des suffrages exprimés. Si on n'obtient pas la majorité des 3/5 du Parlement réuni en congrès, vous l'aurez sur les slides, ça aussi, hein. Alors la loi constitutionnelle ne peut pas être adoptée. Et donc, vous voyez, ce n'est pas une obligation de recourir au référendum. En tout cas, ce n'est pas une obligation quand la proposition émane du pouvoir exécutif. Ça devient une obligation quand la proposition émane d'un parlementaire. Deuxième catégorie, la catégorie des lois organiques. Il n'y a pas de définition, donc un petit B hein, sur les lois organiques. Excusez-moi. Il n'y a pas de définition constitutionnelle non plus de la loi organique. Les lois organiques, en gros, c'est les lois auxquelles renvoient certains articles de la Constitution et qui en complètent, qui en précisent le contenu. Voilà. Et parce qu'elles en précisent le contenu de cette Constitution, alors ce n'est pas à proprement parler des lois constitutionnelles, mais elles ont un rôle quand même là-dessus. Elles sont elles aussi soumises à une procédure particulière. En principe, elles sont adoptées comme les lois ordinaires, c'est-à-dire la procédure classique qu'on a vue tout à l'heure. Il y a une discussion au sein du Parlement, entre l'Assemblée nationale et le Sénat. En cas de difficulté entre les deux, si elles ne se mettent pas d'accord, c'est l'Assemblée nationale qui l'emporte. Sauf si la loi organique est relative au Sénat. Si c'est une loi organique qui organise, qui modifie certaines modalités du Sénat, alors l'Assemblée perd sa primauté. Il faut que les deux assemblées se mettent d'accord. Je vous ai précisé la position du Conseil constitutionnel qui est utile là-dessus. Le Conseil constitutionnel a ce qu'on appelle une approche stricte, restrictive de cette question-là, c'est-à-dire que la primauté, donc la règle c'est ça, hein, la primauté de l'Assemblée nationale disparaît si le texte de la loi organique concerne le Sénat. En fait, pour le Conseil constitutionnel, il faut lire cette règle comme la primauté disparaît si la loi organique ne concerne que le Sénat et pas l'Assemblée nationale. A contrario donc, si le texte de la loi organique concerne et l'Assemblée nationale et le Sénat, alors l'Assemblée nationale conserve sa primauté. Donc c'est une approche stricte, parce que dans l'absolu, un texte qui concerne le Parlement, les deux assemblées, il concerne bien le Sénat. Mais le Conseil constitutionnel vous dit non, ça, la chute de la primauté, la disparition de la primauté de l'Assemblée nationale, elle ne peut jouer que si seul le Sénat est concerné, à l'exclusion de l'Assemblée nationale. Si l'Assemblée nationale est concernée aussi, alors elle conserve sa primauté, et donc en cas de désaccord, il y a bien une primauté offerte à l'Assemblée nationale. Par ailleurs, il n'y a pas de primauté non plus quand c'est des lois organiques relatives au droit de vote et d'éligibilité aux municipales pour les résidents de l'Union. C'est sur la slide. Dans ce cas-là, si c'est une loi organique sur cette thématique-là, sur ce thème-là, il n'y a pas de primauté de l'Assemblée nationale non plus. Un dernier point important sur les lois organiques, je ne l'ai pas mis, mais on soumet nécessairement la loi organique au Conseil constitutionnel avant promulgation. On verra mercredi sans doute le contrôle de constitutionnalité des lois. Pour le coup, quand c'est une loi organique, retenez qu'il y a nécessairement une saisine du Conseil constitutionnel avant l'entrée en vigueur pour que le Conseil constitutionnel vérifie que la loi est bien conforme à la Constitution. Loi organique et loi constitutionnelle, elles ont une valeur plus grande que la loi ordinaire. Elles sont dans le bloc de l'égalité, mais en fait, dans le bloc de l'égalité, on fait aussi des subdivisions. Et la loi organique comme la loi constitutionnelle ont une valeur plus grande que la loi dite ordinaire. Deux autres catégories. Un petit C d'abord sur les lois référendaires. Bon, la loi référendaire, c'est la loi qui est adoptée par référendum. Dans l'absolu, la définition est dans le terme. La particularité, c'est qu'en fait, c'est une catégorie qui surplombe les autres. En fait, une loi organique, une loi constitutionnelle, une loi ordinaire peuvent être des lois référendaires. La loi référendaire, c'est la loi votée par référendum. Donc, ma loi constitutionnelle, on a vu tout à l'heure, hop, si elle est votée par référendum, bah, c'est une loi constitutionnelle référendaire. Ma loi organique, si elle est votée par référendum, c'est une loi organique référendaire. Ma loi ordinaire qu'on va voir dans un instant, si elle est votée par référendum, c'est une loi organique ordinaire. Une loi référendaire ordinaire, pardon, excusez-moi. Vous voyez ce que je veux dire quand je dis que c'est une catégorie qui chapeaute. En fait, la loi référendaire, elle ne se définit pas par rapport à son contenu. Les trois autres, si. Alors, la loi ordinaire, c'est tous les autres domaines. La loi constitutionnelle, c'est celle qui va modifier ou changer la Constitution. La loi organique, c'est celle qui concerne les modalités d'organisation et de fonctionnement de la puissance publique, en gros. Donc, référendaire, je vais y arriver. Les lois constitutionnelles organiques ordinaires, elles se définissent par rapport à leur contenu. La loi référendaire, elle se définit que par son processus d'adoption. Une loi référendaire, on ne sait pas ce qu'elle a comme contenu. La loi référendaire, c'est la loi adoptée par référendum. Donc, elle peut être une des trois autres catégories aussi. C'est la particularité. Il faut citer ici l'article 11 de la Constitution. Ne le notez pas, je vous le lis. Le président de la République, sur proposition du gouvernement pendant la durée des sessions, ou sur proposition conjointe des deux assemblées, publié au journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions. Alors, le domaine des lois référendaires, il est plus réduit que celui des ordonnances de l'article 38. Ce qui intéresse ici, c'est qu'il y a une double possibilité. La loi référendaire un peu classique, notamment si c'est un projet de loi, c'est ce qu'on expliquait tout à l'heure, il y a l'initiative du président. Soit c'est sur proposition du gouvernement, soit c'est sur proposition des deux assemblées. Ça, c'est la loi référendaire classique. Et puis, il y a une autre possibilité qui est le référendum d'initiative partagée. Est-ce que certains en ont déjà entendu parler ? À main levée. Ah, c'est bien, super. Alors, ce référendum d'initiative partagée, il a été créé pour le coup par la loi constitutionnelle de 2008 dont on parlait tout à l'heure. C'est une innovation relativement récente, hein, 2008, pour une constitution de 58. Et c'est une création qui permet un nouveau type de référendum. En fait, c'est ce qu'on appelle un instrument de démocratie semi-directe. C'est pas grave si vous n'avez pas le détail technique, mais pourquoi est-ce qu'on appelle ça semi-direct ? Parce que ça combine deux choses différentes, le référendum classique et le droit de pétition. En gros, pour qu'il y ait un référendum d'initiative partagée, il faut l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement, donc Assemblée nationale plus Sénat, un cinquième des parlementaires, qui sont soutenus par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales. Pardon. Si vous arrivez à réunir ça, un cinquième des parlementaires plus un dixième des électeurs inscrits sur les listes, alors vous pouvez déclencher un référendum national. Dans l'absolu, c'est une belle idée. Et c'est pour ça qu'on parle de référendum d'initiative partagée, vous comprenez bien. C'est au sens de, elle est partagée entre les parlementaires et les électeurs qui soutiennent. Et c'est pour ça qu'on parle d'initiative partagée. C'est une belle idée. Dans l'absolu, c'est voilà, une possibilité de solliciter plus régulièrement le peuple. Ceci étant dit, d'abord, il a fallu des années, plus de 5 ans en tout cas, pour adopter les règles qui permettaient de mettre en œuvre ce référendum d'initiative partagée. Et ensuite, en théorie, c'est très joli. Encore une fois, l'idée que ça porte est très belle. Mais c'est quasiment impossible à mettre en œuvre. Réunir 185 députés, c'est pas forcément une mince affaire. On voit les difficultés qui se présentent aujourd'hui aux députés prêts pour créer des groupes. Mais à la limite, réunir 185 parlementaires, vous êtes sur les deux assemblées, c'est pas du tout infaisable. Le problème, c'est un dixième des électeurs inscrits. C'est monstrueux. Ça représente plusieurs millions d'électeurs. Et donc, pour réussir à réunir plusieurs millions d'électeurs sur ce type d'initiative, c'est quasiment impossible à faire en réalité. Donc ce qui se passe, c'est que ça a été effectivement créé en 2008, alors il a fallu attendre les lois qui ont permis l'adoption définitive, c'est ce que je vous disais, un peu plus de 5 ans, mais enfin ça fait grosso modo, si je force un peu, ça fait une dizaine d'années que le référendum d'initiative partagée est opérationnel en droit français. Ça ne sert pas, hein. Ça ne fonctionne pas parce que le palier fixé sur le nombre d'électeurs à réunir est considérable. Alors heureusement, en même temps, parce que s'il vous suffit d'avoir 300 électeurs, on se retrouve avec des référendums tous les deux jours. C'est inenvisageable. Donc il fallait, ça a un sens, d'exiger un pan très important de la population en se disant, en fait, si ça réunit autant de gens, c'est qu'effectivement, il y a lieu de solliciter l'ensemble du peuple par référendum. Ça se tient. Sauf qu'en pratique, du coup, bah, ça ne se réalise pas parce que vous n'arrivez pas à réunir autant de citoyens sur une question. Donc voilà, sachez que ça existe. Sachez que le cas échéant délégué Ferranda, enfin, à l'avenir, éventuellement, ça pourra être mis en place, mais que globalement, l'utilité de ce système-là est relative, disons. Un dernier point, et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus. Après ce point-là, j'hésite. Je ne suis pas convaincue encore. Soufflez pas. Ou alors je présente très brièvement les conflits de sources et je m'arrête après, comme vous avez déjà vu la slide. On va voir. Bref, un petit dé sur les lois ordinaires. En tout cas, on fait la dernière catégorie. Bah, les lois ordinaires, en fait, c'est un peu tout ce qui reste. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est des lois qui ne sont pas constitutionnelles et des lois qui ne sont pas des lois organiques. Voilà. Donc c'est le gros des lois, hein. Les lois organiques et les lois constitutionnelles, elles sont moins souvent... Elles sont moins souvent adoptées, voilà. En termes de quantité, le très gros du volume des lois, c'est des lois ordinaires. Donc c'est les lois, ça porte finalement assez bien son nom, hein. c'est les lois habituelles, c'est les lois les plus fréquentes sur d'innombrables sujets, puisque vous avez vu que les domaines qui sont définis par l'article 34, ils sont considérables. Donc ça peut être sur tous les sujets, évidemment. Et puis vous avez à l'intérieur, du coup, une grande diversité de lois possibles. C'est ce que j'ai essayé de vous mettre, pour le coup, sur la slide. Vous avez des lois d'autorisation, des lois de ratification, des lois d'expérimentation, des lois de validation, voire des lois interprétatives. Je dis un mot sur chacune des catégories pour que vous ayez une définition un peu générique. Alors, la loi d'autorisation, d'abord, c'est quoi ? La loi d'autorisation, c'est la loi par laquelle le Parlement va autoriser le gouvernement à intervenir par ordonnance pendant une période déterminée. Ça permet au gouvernement de mettre en œuvre son programme. Il le fait avec l'assentiment du Parlement via une loi d'autorisation. Bon, la loi de ratification, comme son nom l'indique, c'est une loi qui vient ratifier un traité, hein. Éventuellement, ça peut être, on en a eu beaucoup après les attentats en 2015, ça peut être aussi les lois de ratification, les lois qui viennent valider ou proroger, donc étendre un état d'urgence, éventuellement un état de siège, mais là, la question ne se pose pas tellement. Mais sur l'état d'urgence, ça a été beaucoup ça. Et si là, quand même, oui, vous étiez né, je ne sais pas si vous avez le souvenir de ça, mais le Parlement avait été réuni en congrès, pour le coup, après les attentats. Ouais, je me mélange un peu dans les décennies, mais vous êtes loin, c'est pour ça. Ben non, mais en 2015, vous aviez quoi, 10 ans ? C'est ça, à peu près ? Donc c'est pour ça, vous n'avez pas forcément le souvenir, c'est pas un, je vous dis juste, après les attentats, il y a eu effectivement une réunion du Parlement en congrès, et ont été adoptées toutes les règles sur l'état d'urgence qu'on a connu et qui pour certaines subsistent. Ensuite, les lois de validation. Alors, les lois de validation, je passe très vite, c'est très complexe pour vous. En gros, le Parlement va venir avec une loi de validation, comme son nom l'indique, il va venir neutraliser les décisions, les effets d'une décision. Et ça va permettre d'annuler certains actes juridiques. En gros, si je résume, encore une fois, apprenez pas ça, c'est juste sachez qu'elles existent, les lois de validation. Vous avez une décision juridictionnelle qui va avoir annulé certains actes juridiques. Le Parlement va intervenir a posteriori de cette décision pour redonner pleine valeur aux actes. C'est ça une loi de validation, donc c'est rétroactif. Et puis enfin, vous avez les lois d'expérimentation. Il y a les lois interprétatives derrière, pardon. Vous avez les lois d'expérimentation. Alors, les lois d'expérimentation, elles ont été introduites par une révision constitutionnelle aussi. Et la Constitution reconnaît au Parlement la possibilité de créer certaines dispositions à titre expérimental. On a vu ça, je ne sais pas si vous avez suivi un peu, c'est assez récent. Notamment sur les questions de conditionner le versement du RSA à une activité pendant, je crois que c'est 12 heures ou 15 heures. Et donc, il y a une loi expérimentale sur certains territoires. Je ne sais plus quelles régions se sont portées volontaires, mais on est en train de tester le truc sur certaines régions. Voilà, seulement. Une loi expérimentale, c'est ça. Et après, on dresse un bilan. Est-ce que c'est efficace ? Est-ce qu'il y a des points d'amélioration, etc. ? Et le cas échéant, derrière, on adopte la loi pour tout le monde. Je me demande si ça s'est pas fait aussi sur leur truc de... Ça, vous le savez sans doute mieux que moi, puisque vous sortez du lycée. Mais sur leur truc d'uniforme. Ouais, je me demande s'il n'y a pas des lois d'expérimentation là-dessus aussi. J'ai rien dit, hein. J'ai pas donné d'avis. Dernière catégorie, la loi interprétative. La loi interprétative, comme son nom l'indique, elle a pour objet de venir clarifier le sens d'une loi précédente qui manquait de clarté. On se rend compte qu'il y a une loi qui finalement n'est pas si claire que ça, ou à l'application ça pose problème. On va venir préciser, le législateur va revoir lui-même sa copie en quelque sorte, en faisant une espèce d'addendum, en créant une loi interprétative pour dire... Ce texte-là antérieur, il doit s'interpréter comme ça. Le sens de ce texte-là, c'est ça. Voilà, c'est ça une loi interprétative. Vous le voyez, donc le panorama des lois est particulièrement dense. Et on en a donc terminé, je vais faire quand même juste l'introduction du conflit. On en a donc terminé. Non, mais on avance bien. Est-ce que... Ah oui, j'oublie mes questions du coup. Est-ce que certains sont paumés avec tout ça? Encore une fois, je ne pose pas la question pour me moquer de vous ou pour... Pour qui est-ce que ça va? Ok. De toute façon, en règle générale, on y arrive comme ça. Si c'est pareil cette année, c'est bien. Le dernier cours, je ne sais plus la date exacte, je vous la redonnerai. Je ménage 1h30, voire 2h de, ça reste entre nous comme expression, mais de questions un peu en open bar. Je suis là, les survivants du semestre qui auront continué à venir en amphi et que je remercie en novembre seront là aussi, et je prends toutes vos questions sur tout le cours. Voilà. Donc si jamais vous vous rendez compte que là vous avez l'impression que ça va, et dans 15 jours, 3 semaines, quand nous on est passé à autre chose en amphi, finalement ça coince, soit vous venez me voir, hein, je ne suis pas un robot, c'est-à-dire que je peux réévoquer des thématiques qu'on a vues 3 semaines avant, vous venez me voir en amphi, ou alors vous viendrez sur le dernier cours et vous me posez les questions que vous voulez. Voilà. Je ménage ce temps-là pour que vous, vous ayez aussi la possibilité d'être sûr que tout est bien compris. Encore une fois, par pitié, ne restez pas avec des questions sans réponse. Il n'y a pas de questions idiotes. Et moi, je prends toutes vos questions. Voilà. Et je vous félicite simplement d'avoir la démarche de venir les poser. Donc, posez vos questions. Une fois qu'on a fait cette présentation, je vous fais juste l'introduction du paragraphe et on s'arrête. Ce panorama, il était essentiel pour comprendre la hiérarchie des normes, mais en fait, la hiérarchie des normes, on vous en fait toute une montagne en vous disant un des grands pans de l'intro, c'est la hiérarchie des normes. Non. La hiérarchie des normes, ça va. En fait, la hiérarchie des normes, là, peu ou prou, vous l'avez déjà compris avec ce qui précède. Ce qui est compliqué dans la hiérarchie des normes, c'est le contrôle. Voilà. Et c'est là que ça va... C'est pour ça que je ne veux pas l'engager maintenant, le thème. C'est, à mon sens, tout le monde est différent. Un des thèmes les plus ardus, la question des contrôles de la hiérarchie, avec le thème qu'on verra ensuite, qui est la question de l'application de la loi dans le temps. C'est ardu, c'est pas impossible à comprendre, c'est très technique. Accrochez-vous, le cours de mercredi, je fais des schémas, j'essaye de faire en sorte que ce soit relativement clair, mais oui, les contrôles, c'est technique, c'est pas la hiérarchie. La hiérarchie, donc, on entre dans un deuxième paragraphe sur les conflits de sources. En fait, pourquoi est-ce que je vous ai présenté les sources là jusqu'à présent ? Parce qu'elles coexistent dans un écosystème global. Il n'y a pas la loi, et puis le bloc de constitutionnalité, et puis les traités, et puis chacun est dans son coin, et moi je suis spécialiste de la loi, et moi je suis spécialiste de la Constitution. Non. En fait, tout ça, ça forme les règles de droit françaises, applicables en France. J'ai une question très simple, et on s'arrêtera là-dessus, et je vous explique tout mercredi matin, comment je fais si j'ai des règles qui se contredisent. Qu'est-ce que je fais si j'ai une loi qui n'est pas dans le même sens qu'un traité? Qu'est-ce que je fais si j'ai une règle de mon traité qui n'est pas dans le même sens que ma constitution? Qu'est-ce que je fais si j'ai un acte du bloc réglementaire qui n'est pas dans le même sens que la loi? Voilà. La hiérarchie des normes, c'est ça. Essayez de faire en sorte qu'un environnement juridique qui peut être, s'il vous plaît, je vous demande 2 secondes, le rangage de trousse et d'ordi, quand je finis de parler, je suis moyennement fan, j'annonce. Parce que je peux tirer, moi, jusqu'à 17, hein, si vous avez envie, sinon. Comme ça, vous avez un peu de temps pour ranger vos trousses ou vos ordi. Je suis parfois un peu contrariante. Donc, l'enjeu, et surtout ce thème-là, vraiment, je suis vous, je m'accroche. L'enjeu essentiel, c'est de se dire, on peut vite se perdre dans un environnement où il y a plein de normes, de sources différentes, de plus en plus nombreuses. Comment est-ce que je range mes affaires? La hiérarchie des normes, je ne sais pas comment vous la présenter plus simplement que comme ça. J'ai des centaines de milliers de règles qui viennent de plein d'univers différents, donc le risque de contrariété entre deux règles est immense, va se produire, c'est une certitude. Est-ce que j'ai des outils pour le régler, ce conflit? Et donc, vous comprenez bien pourquoi j'étais obligée de vous présenter toutes les sources pour que vous ayez une idée des étapes, des différents étages qu'on va envisager là, mercredi. On s'arrête là-dessus, on se retrouve mercredi, mais gardez ça dans un coin de votre tête. Bon courage à après-demain.